Août 1941. Mes grands-parents maternels préparent leur mariage dans le village d'Omdoma, en Égypte. Là-bas, les mariages arrangés sont coutumes. Ma grand-mère, Victoria, n'est absolument pas consentante pour épouser Saïd. Elle en fait part au prêtre. Le prêtre l'écoute attentivement, puis précipite la cérémonie pour ne pas donner à ma grand-mère l'occasion de fuir le village pour éviter le mariage. Saïd, c'est le fils d'Oueda, le Ramda, le maire du village d'Omdoma. Mais autant Oueda, mon arrière-grand-père, est influent et respecté, autant son fils Saïd est impulsif, illettré et peu sociable. C'est sans doute pour calmer sa fougue et ses ardeurs de chien fou qu'Oueda lui a trouvé une épouse docile. De ce mariage non consenti naîtront 5 enfants, conçus dans la violence et la brutalité, dont ma mère, qui verra le jour le 1er avril 1944. Dans la maison familiale, ma mère, qui était encore enfant au milieu des années 50, dormait par terre avec son frère et ses sœurs aux côtés de ses parents. Parfois, elle était brusquement réveillée en plein milieu de la nuit par des pluies de coups de bâton. C'était Saïd, son père, tellement en colère que Victoria se soit encore refusée à ses assauts, qu'il la battait et n'hésitait pas à taper sur tout ce qui traînait autour de lui, à commencer par ses enfants. Ma mère n'a jamais aimé son père et s'est sentie très tôt la mission de protéger sa maman, à qui elle reprochait en même temps énormément sa tolérance à la douleur et son absence de révolte. Alors ma mère a décidé de porter cette colère que sa mère n'exprimait pas. Une colère contre cet homme qu'elle a vu trop de fois frapper et abuser de son épouse. Colère qui s'est ensuite généralisée à tous les hommes désirants et qui a entraîné chez ma mère un dégoût de la sexualité. Devenue adulte, elle a eu beaucoup de demandes en mariage et les a toutes repoussées. À 29 ans, elle a fini par accepter la demande de mon père. Peut-être pour céder à la pression sociale, peut-être pour éviter de finir vieille fille, ou pour d'autres raisons que je ne connaîtrai jamais. Quand j'étais enfant, tous les étés je me rendais au village, souvent sans mes parents. Mon grand-père, Saïd, m'accueillait en souriant. Et chaque fois que je repartais, il fondait en larmes, comme un bébé triste de me voir partir. Je l'aimais bien. C'était un homme simple, un peu soupolet, à qui j'adorais faire des blagues. Comme par exemple, lui piquer son bonnet pendant son sommeil et repeindre son crâne chauve d'un mélange de talc et de farine. Ou encore, lui mettre 5 à 10 cuillères de sel dans son thé, pour le plaisir de le voir cracher, hurler et maudire la terre entière. Il était peut-être trop vieux à l'époque pour me courir après. M'a jamais fait peur, mon grand-père. Je me sentais même proche de lui. Je le voyais comme un enfant illettré, un être mal aimé, que ses parents n'avaient jamais valorisé et qui préférait sans doute la présence des bêtes à celle des humains. J'ignorais alors pourquoi ma mère le méprisait autant. Ce n'est qu'en 1998, après la mort de mon grand-père, que ma mère m'a raconté son histoire. Pour elle, Saïd n'était pas un homme. Au mieux, c'était un simple d'esprit. Au pire, un animal. Je crois bien que cette phrase, c'était même pas un homme, est restée gravée dans mon esprit. Et a dû constituer un frein puissant lorsque j'ai senti les premiers élans puissants du désir irriguer mon bas-ventre. Je n'étais pas sûr de vouloir devenir un homme si le coup était de perdre l'amour de ma mère. Et puis, comment comprendre ce désir naissant qui se manifestait si peu chez mes parents ? Mon père était un intellectuel, concentré sur son travail et semblait tellement au-dessus des besoins physiques et matériels que j'avais l'impression que mes premiers troubles érotiques faisaient de moi quelqu'un de pervers et d'anormal. J'ai vainement lutté contre mes désirs et ma sexualité. Et plus j'essayais de les réprimer, plus il devenait une obsession honteuse que je vivais en secret. Aujourd'hui encore, je ne suis pas tout à fait au clair avec mes désirs, ayant encore du mal à distinguer l'agressivité liée à la honte et au rejet de ma sexualité, de l'agressivité qui est l'expression de l'énergie et du désir de vie. Chez nous, la sexualité n'était pas bienvenue. Je me souviens encore du jour où ma sœur, revenant de colonie de vacances, est allée discrètement planquer son linge sale dans le bac. Ma mère, apercevant une culotte tachée de sang, a eu un soupir de désespoir. Ça y est, tu les as eus ? Ma sœur était tellement honteuse qu'elle n'a même pas répondu. Oh là là, ça y est, les problèmes vont commencer. Un de mes amis m'a raconté l'histoire d'un père qui un jour, lorsqu'il a appris que sa fille avait eu ses règles, l'avait invité au restaurant pour célébrer son entrée dans le monde de la féminité. Comme j'aurais trouvé cela beau, un rituel comme ça, pour célébrer mon entrée dans le monde des jeunes hommes. Bravo mon fils, tu viens de réaliser ta première branlette. Tu as réussi à éjaculer sur le pelochon. Allez viens, on va fêter ça. Un jour, lors d'une séance d'éthiothérapie, la thérapeute à qui je n'avais absolument rien raconté de notre histoire familiale, m'a dit cette phrase étrange. Namir, tu n'es pas ton grand-père. Il est temps que tu te détaches de lui et arrête de chercher à le protéger. J'avais alors pas compris grand-chose à ses propos. Ce n'est que récemment que je compris à quel point Saïd avait eu une influence très forte sur la vie de ma mère et sur ma constitution, sur la manière dont je suis devenu homme. En écrivant ces lignes, je réalise en frissonnant que Saïd, c'est aussi le deuxième prénom que j'ai donné à mon fils. Certains disent que nous venons sur Terre pour réparer les fautes de nos ancêtres. Alors, chère maman, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas trop de divulguer cette histoire. Toi qui m'avais fait promettre de la garder secrète, tu sais bien que je suis désobéissant. Et je crois qu'écrire est peut-être mon moyen de libérer nos fantômes et les aider à retrouver leur place parmi les esprits, pour que nous et nos enfants puissent enfin retrouver notre place parmi les hommes et les femmes.